Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal à la présentation. Noéla Luzitu Kabambi.
La société Développement Immobilier au Congo de Vimco SRL, propriétaire de l'immeuble L'Horizon qui abritait l'ambassade du Rwanda, ainsi que plusieurs entreprises congolaises et des ONG, se plaint de la destruction de ces infrastructures par les manifestants le 28 janvier dernier. Les Kinois réagissent à la fermeture momentanée des applications TikTok et X en RDC depuis le 1er février courant. Certains utilisateurs, notamment des créateurs de contenu, critiquent négativement cette mesure, mais d'autres la trouvent normale et positive dans le cadre de la lutte contre la désinformation en rapport notamment avec la situation sécuritaire du pays. Luc Gbaweza est l'invité de ce journal. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 va parler des conditions de reprise des cours dans les écoles situées dans et autour de la ville de Goma. Bonjour à tous. Notez d'abord qu'au sud de Kivu, 84 militaires ont été appréhendés hier dimanche sur l'axe Mudaka Miti Kavu Mukale au nord de la ville de Bukavu où ils venaient de commettre plusieurs exactions à peine relevées du front contre le M23 à Nyabibwe, 100 km entre Bukavu et Goma. Ces quelques éléments de l'unité Guépard ont brillé par l'indiscipline tout au long de leur parcours. Ils se sont livrés au pillage, vol, viol et assassinat. Le Conseil de sécurité de la province a ordonné au commandant de la 33e région militaire, appuyé par le ministère provincial de l'Intérieur, de procéder à l'arrestation de ce groupe de militaires. L'opération s'est déroulée dans un climat de vive tension qui a ravivé la psychose au sein de la population traumatisée. Cette population réclame la tenue d'une audience foraine à Kavumu, où ces militaires ont commis des atrocités. Ici à Kinshasa, la société Développement Immobilier au Congo de Vimco SRL, propriétaire de l'immeuble L'Horizon qui abritait l'ambassade du Rwanda, ainsi que plusieurs entreprises congolaises et des ONG, dénoncent les destructions méchantes, incendies et pillages le 28 janvier 2025 contre les locataires de cet immeuble. Dans un communiqué de presse publié le week-end, la société Devimco appelle le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire les auteurs de ces actes en justice et réparer les préjudices commis. Les détails avec Vanessa Nkongo.
L'immeuble Horizon situé au numéro 50 de l'avenue Lieutenant-Colonel Lukusa avait l'usage exclusif de bureaux. Il propose 6 122 m² de bureaux, dont environ 5% seulement étaient alloués à l'ambassade du Rwanda, comme à tout autre locataire, tandis que le 95% restant était occupé par les sociétés des droits congolais, une fondation allemande et même une société du portefeuille d'État. Vimco SARL déplore que les actes de destruction méchante, pillage et vandalisme et l'incendie de son immeuble a duré toute la journée sans intervention de forces de l'ordre. Dans ses communiqués de presse, Vimco SARL rappelle qu'elle n'exerce aucune influence sur les décisions d'accréditation, de maintien et ou de retrait des missions diplomatiques et n'a jamais été saisie par les autorités pour résilier les contrats de bail conclus avec l'ambassade du Rwanda, mission diplomatiquement dûment accréditée par décision du gouvernement congolais. Vimco espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que les décriés soient identifiés et déférés devant la justice et que tous les préjudices subis par Vimco et par ses locataires soient réparés et que les investissements de propriété soient effectivement protégés.
Au Maniema, l'UNESCO a récemment soutenu les acteurs éducatifs provinciaux dans l'élaboration des plans d'action opérationnels budgétisés et sensibles au genre. Après 6 jours de travail intensif, 23 plans d'action intégrant une approche genre ont été produits. Ces plans concernent notamment les divisions de 2 provinces éducationnelles, Maniema 1 et 2, la formation professionnelle, la division des affaires sociales et l'enseignement supérieur et universitaire. À la fin de ces assises, il a été recommandé aux autorités provinciales de s'approprier ces outils pour leur mise en œuvre. Florence Kizalunga.
Un sentiment de reconnaissance a marqué les participants à cet atelier qui demande la pérennisation de cette activité. Magui Foura a parlé au nom de ses pairs.
En plus de ce que nous avons fait aujourd'hui, parce que nous sommes convaincus que c'était vraiment un problème au niveau des gestionnaires qui œuvraient sans toutefois avoir un plan d'action opérationnel. Nous remercions également notre partenaire, l'UNESCO, pour avoir financé cette activité et de ne pas s'arrêter à ce niveau.
Les organisateurs plaident auprès des autorités provinciales pour qu'elles s'approprient ces plans d'action et mènent des plaidoyers pour leur inclusion dans le budget provincial. Célestin Isimba.
Nous avons réalisé notre objectif. Nous souhaitons qu'il y ait le processus de suivi. Ça ne signifie pas seulement d'élaborer un plan d'action opérationnel et mettre dans les tiroirs, non. Il faut qu'il y ait la mobilisation des ressources, que la province prenne en compte tout ce qu'on a mis comme activité à mener.
Le ministre provincial de l'éducation promet de faire rapport à sa hiérarchie. Marungu Ouseni.
Les recommandations, nous les avons déjà bien suivies et nous allons faire rapport à qui des droits. Mais je vous rassure que le gouverneur Moussa Kawankoubi va assurer le suivi pour que ces plans, avec bien sûr nos partenaires, que ça puisse être réalisé.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Omar Kavota, chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, tire la sonnette d'alarme sur la prolifération des groupes armés depuis l'agression du pays par le 1-23 soutenu par le Rwanda. Il signale l'apparition d'une vingtaine de nouveaux groupes armés depuis l'occupation de Bunagana par ses combattants en juin 2022. Selon lui, le contexte actuel ne doit pas servir de prétexte à cette prolifération. Il appelle les groupes armés encore actifs à rejoindre le processus des désarmements et des démobilisations pour favoriser la pacification de la région. Omar Kavota s'exprime au téléphone d'André Kitenge.
Le contexte du moment ne devait pas servir de prétexte pour justifier la prolifération des groupes armés. Voilà pourquoi le PDDRCS continue à encourager les différents membres des groupes armés à adhérer au processus de désarmement et de démobilisation en faveur de la réinsertion et la réintégration communautaire. Nous ne pouvons pas, pendant qu'il s'observe l'agression de notre pays, multiplier des groupes de manière à gêner les opérations de FA RDC et de leurs partenaires contre le groupe d'agression. Par contre, nous pensons qu'on doit faire en sorte que, afin de contribuer à la paix et à la pacification de la zone, que les autres groupes qui pouvaient servir de béquilles aux terroristes ne soient plus visibles. Nous voudrions donc ici encourager les milices locales, dans leur diversité, à pouvoir rejoindre le processus de pacification, comme cela a été le cas récemment pour le groupe Mai Mai Autodéfense de Bachou, pour que nous puissions donner à notre province la paix et la sécurité qu'elle mérite.
Dans la province de la Tchopo, un violent conflit oppose actuellement les villages de Yalumbuka et Bolembe, situés à plus de 250 km de Kisangani, en aval du fleuve Congo. Ces derniers jours, des affrontements entre les habitants de ces deux villages ont fait plusieurs morts et des blessés. Ils se disputent la gestion forestière. Pour rétablir le calme, le gouvernement provincial a dépêché une équipe de militaires pour créer une zone tampon entre les deux villages. Le ministre provincial de l'Intérieur, Roger Ekongo Demba, a convoqué d'urgence les chefs de groupement à Kisangani pour s'expliquer sur les causes de ces violences meurtrières. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Nous avons été attristés d'apprendre que dans le territoire de Yaouma, il y a eu ces altercations entre les villages Yalumbuka et les villages Bolembe. Malheureusement, on a déploré des morts ainsi que des blessés graves. On parle des Tropenbos qui est parti pour faire des explorations de façon à constituer une réserve forestière dans le milieu et que les avantages allaient profiter à l'un ou à l'autre village. Il y a aussi la compagnie Boming qui exploite les bois dans le milieu, qui a des ramifications jusqu'au niveau de la chefferie Mombongo, et les dividendes qui en découlent suscitent la haine et les tensions entre les communautés riveraines. Cela est aussi instrumentalisé par les acteurs politiques du coin. On a dépêché une équipe de 20 militaires pour essayer de constituer une zone tampon. Il y a aussi la police au niveau du chef-lieu du territoire pour stabiliser la situation. La responsabilité de l'État, c'est assurer la protection de personnes et de leurs biens. Lorsqu'il y a des failles au niveau de nos chefs de groupement, voilà pourquoi nous avons pris les décisions de les inviter pour que nous puissions savoir les tenants et les aboutissants de ces dossiers, de façon à prendre des mesures qui s'imposent.
La ville de Bandundu, chef-lieu de la province de Kwilu, est confrontée à une recrudescence des vols enregistrés presque quotidiennement. Selon des sources locales, aucune commune n'est épargnée par ces cambriolages qui touchent les maisons d'habitation. Les habitants se sentant en insécurité appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. La commissaire provinciale de la police de Kwilu reconnaît la situation. Elle invite les habitants de Bandundu-ville à une vigilance accrue et à signaler tout mouvement suspect pour permettre à ses services entreprises de traquer les voleurs et de mettre fin à ce phénomène. Irène Mbomaluzolo nous en dit plus.
D'après plusieurs sources, ces voleurs opèrent en groupe la nuit ou les jours et sont munis d'armes blanches. Face aux accès verrouillés, ils utilisent un mode opératoire audacieux, celui de creuser une partie du mur de la maison en retirant quelques briques pour y accéder et commettre leur forfait. Ils emportent entre autres des biens de valeur de la maison, des motos, des bêtes et autres. Le dernier cas de vol est celui enregistré mercredi au quartier Lissala dans le domicile de M. José Ipalangi qui confirme les faits. Il prenait des biens et les remettait à ses complices qui étaient dehors. Il était muni de machettes. Grâce aux enquêtes de la police, on les a découverts. Face à cette recrudescence des cas de vol dans la ville de Bandundu, la population ne sait à quel sens se vouer et tire la sonnette d'alarme. Le phénomène Kuluna est maîtrisé un peu, mais ce sont des cas de vol qui battent les records. Nous demandons à la police de s'activer pour mettre fin à ces problèmes. Pour sa part, la commissaire provinciale de la police du Kwilu, le général Angèle Yangbonga, invite la population à doubler la vigilance et à collaborer avec la police pour mettre fin à ces phénomènes. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Les applications TikTok et X sont momentanément fermées en RDC depuis le 1er février dernier. Du côté des utilisateurs, certains disent comprendre que cette mesure fait partie d'une stratégie visant à combattre la désinformation, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire du pays. Cependant, de nombreux autres, simples consultants ou créateurs de contenu, notamment les jeunes entrepreneurs, critiquent négativement cette mesure. Nancy Tambo pour les détails.
TikTok est une source de revenus important pour certains jeunes. Et pour plusieurs d'entre eux, suspendre ces réseaux ne résout pas le problème de la désinformation. Cela pénalise ceux dont les activités en dépendent, déclare notamment Gédéon TikToker.
Nous ne savons même pas ce que nous allons faire au bureau parce que nous travaillons avec les réseaux sociaux. Vous avez fermé TikTok, X, voire Apple Store. Nous autres avons créé nos PME par nos propres efforts. Mais là, vous avez tout fermé. Si c'est pour la sécurité, dites-nous au moins combien de temps ça va prendre. Vous savez combien d'entreprises en ligne ne savent plus travailler parce que vous avez fermé leur gagne-pain?
Même sentiment de déception pour ceux qui trouvent dans ces réseaux des moyens de se divertir. Fermer ces réseaux, c'est vraiment dur pour nous, réagit Véro Mikobi.
C'est trop dur parce qu'on travaille dur la journée, le soir, on peut se divertir en regardant TikTok. Si seulement on a remarqué que les autres personnes utilisent mal l'application, on allait peut-être prendre des mesures pour sanctionner ces gens-là qui privaient tout le monde.
C'est aussi de la désolation pour Élisée Lohombe, gérante du TikTok de la chorale Cœur des Anges de Mboudi. Elle et son groupe utilisent TikTok pour évangéliser.
Ça nous pénalise parce que le nombre de vues diminue, d'autres personnes ne vont plus nous suivre.
Tous demandent aux autorités de revoir leurs décisions. Certains utilisateurs contournent cette mesure en passant par d'autres applications.
Au Kassai oriental, dans le centre du pays, plus de 4000 femmes micro-entrepreneurs ont été identifiées dans le cadre du projet dénommé Transforme. La liste de ces femmes a été publiée mercredi dernier par l'unité de coordination du projet. Ces femmes micro-entrepreneurs vont suivre vers le mois de mars prochain une formation en initiative personnelle du projet Transforme. Explication avec Esther Ndalafina.
D'après le communiqué publié par le projet Transforme, la sélection s'est basée sur la localisation et les activités dans les secteurs éligibles dont notamment l'agro-transformation, l'industrie légère, les services à valeur ajoutée et l'économie verte. Ce processus a été possible grâce à une campagne de sensibilisation, d'identification et d'enregistrement effectuée par les structures d'accompagnement. Selon le communiqué, ces femmes suivront une formation en élaboration de plans d'affaires simplifiés, elles entreront dans un parcours d'accompagnement en entrepreneuriat incluant des compétences essentielles et une subvention en nature, dont l'équipement de production pour développer leurs entreprises. Un contrôle physique des participantes sera effectué dans des centres d'information dont les adresses seront communiquées prochainement. Signalons que le projet Transforme est mené dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma, Bunia, Bukavu, Mbujimayi et Kananga. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
18 mois après son arrivée au pouvoir, le général Tiani a signé ce week-end un décret convoquant des assises nationales du 15 au 19 février prochain au Niger. Pas moins de 674 délégués sélectionnés par les militaires y seront répartis en 5 commissions pour définir la feuille de route de la transition. Les seuls absents seront les représentants des partis politiques toujours suspendus.
L'invité.
Luc Gbaweza est l'invité de ce journal. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 annonce que les activités scolaires reprennent ce lundi 10 février dans les écoles primaires et secondaires de Goma, dont les infrastructures n'ont pas été gravement affectées par les récents affrontements armés. Luc Gbaweza s'entretient avec Chris Mukande.
Bonjour Monsieur Luc Gbaweza, vous êtes le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1. Confirmez-vous la reprise des cours ce lundi à l'EPST dans votre juridiction?
Bonjour Monsieur Chris Mukande. J'ai au moins énuméré 4 points dans le communiqué que j'ai pris le vendredi 7 de ce mois. Le premier point concerne les bureaux gestionnaires et les écoles non détruites par la guerre. Cette catégorie peut reprendre les activités dès lundi 10 février normalement. Quant aux écoles qui sont touchées par la crise sécuritaire, j'ai instruit à ce que les comités des parents se réunissent en conseil de gestion avec les établissements de ces écoles-là pour évaluer tous les dégâts enregistrés et envisager des réparations urgentes. C'est pour dire que dans ces écoles, on ne peut pas directement espérer ouvrir les portes demain puisque il y a des mesures de réparation qu'on doit prendre à l'issue de la réunion du conseil de gestion pour réparer le mobilier cassé, pour rééquiper les salles de classe dont les mobiliers ont été utilisés comme bois de chauffe par les déplacés ayant fui leur camp ou leur site vers le centre urbain ou les périphéries de la ville. Et il faudra encore prendre du temps pour voir comment équiper ces écoles et ces classes. Il y a aussi des toitures qui ont été endommagées, qu'on doit chercher à réparer, ainsi de suite.
Vous interdisez l'application de la double vacation durant cette période dans les écoles. Pourquoi?
Il ne faut pas qu'on expose les enfants, puisqu'il y a toujours des pêcheurs à nos troubles. Il y a toujours des bandits qui peuvent profiter de la situation pour aussi commencer à kidnapper certains enfants et créer encore des ennuis. Nous ne souhaitons pas que les écoles organisent les séances de double vacation en ce moment-ci, puisque c'est un moment très critique. Et aussi, toutes les écoles doivent réglementer les heures de sortie, tout comme les heures d'arrivée aussi à l'école. Et les parents doivent aussi veiller sur le mouvement des enfants durant leur parcours de la maison à l'école, tout comme de l'école à la maison, pour vraiment mettre à l'abri tous les enfants qui vont devoir reprendre au fur et à mesure.
Et pour les écoles victimes de la destruction de la guerre, à quand la reprise effective des cours?
Comme par exemple l'école du cinquantenaire qui a été pillée de fond en comble, j'ai demandé à ce que la reprise se fasse à l'issue de moindres réparations qu'ils auront réalisées. D'abord commencer à rééquiper les salles. Je ne sais jusque quand et comment aussi, puisqu'il se pose d'ores et déjà les problèmes liés aux finances. Et vous savez, ce que nous avons perdu à l'école du cinquantenaire, ça peut carrément avoisiner même 500 000 dollars, puisque outre le mobilier, le manuel, la bibliothèque qu'on a saboté et qu'on sort, nous avons d'importants appareils qui ont été emportés, qu'il sera difficile de récupérer aujourd'hui ou demain. Alors, au moins, les travaux de réfection doivent poursuivre leur bonhomme de chemin. Et le moment venu, on va voir en quel moment les enfants vont reprendre. Puisque les enfants ne peuvent pas aller se mettre à même le sol, dans les salles de classe. Même les tableaux ont été enlevés. Alors, quels seront ces supports ou ces moyens didactiques-là que les enseignants vont utiliser? C'est purement impossible en ce moment-ci. Et ces écoles devront encore prendre du temps pour voir comment les personnes de bonne volonté, les ONG et pourquoi pas le gouvernement, tous peuvent nous venir en aide pour, dans la mesure du possible, rééquiper ces écoles de manière progressive. Et je profite de votre micro pour rappeler aux gestionnaires leurs responsabilités premières, ainsi que les chefs d'établissement, mais également les enseignants et les parents, quant à la collaboration qui doit régner en ce moment crucial, et surtout à la discipline qui doit s'observer dans nos écoles et à l'accompagnement mutuel pour la seule cause et l'intérêt supérieur de nos enfants. Donc, nous osons espérer qu'avec Dieu, nous pouvons nous en sortir.
Monsieur le prophète, merci.
Merci beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à ma modeste personne pour ces quelques éléments que je viens d'apporter.
Fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est assurée par Pierre Diassinois, un journal coordonné par Gisèle Cage. Restez branchés sur le programme de Radio Okapi.